Donc, pour introduire la réflexion de la première intervention, et je vois que Béatrice s'est déjà préparée, donc c'est l'équipe rémoise qui va intervenir en premier, avec Dr Béatrice Dijon, Dr Laurence Dullière qui n'est pas loin, et avec les professeurs Abélie et le doyen Jacques Mott, qui vont probablement nous rejoindre dès qu'ils pourront. Donc voilà, vous voyez les premières propositions que l'on vous propose. Donc actuellement, ne vous excitez pas sur vos petits boîtiers, ça ne marche pas parce que je n'ai pas ouvert le vote. Donc lisez déjà le texte, parlez, exprimez-vous, prenez contact avec vos voisins et voisines, et puis votez. Donc vous voyez, le petit boîtier, là, il va changer de couleur en principe. Et je déclenche le vote, donc on verra le nombre de votants s'afficher au fur et à mesure que vous aurez validé et mis OK. Vous avez maximum 2 minutes pour résoudre ces difficiles problèmes. Allez-y. Alors, vous votez pour une réponse, deux réponses, trois réponses. Vous pouvez même répondre pour les 7, positivement. Seize boîtiers se sont déjà exprimés, 17, le compte à rebours arrive. Vous avez presque tous voté. 3, 2, 1, j'arrête. Vous voulez voir? Voilà le résultat. Donc, Béatrice, ça va être à toi de dire ce que tu en penses et puis de nous parler donc de ton expérience de la cellule maltraitance rémoise. Oui, peut-être. Comment?
D'accord, on va faire des petits commentaires rapides, c'était juste pour une mise en bouche. Plus d'enfants victimes que d'enfants délinquants, oui, même si le chiffre de 17% est impressionnant, rapporté par monsieur le procureur, mais on estime, ne serait-ce que pour les sévices sexuels, que 10 à 12% des enfants ont été confrontés à une situation de geste à connotation sexuelle à leur encontre dans la population générale. Donc si on rajoute en plus les enfants victimes de sévices physiques, de carences, de maltraitance, on est largement au-delà des 17%. Le signalement doit se faire auprès du procureur, alors on peut chipoter, mais la réponse est oui. Je pense que monsieur le procureur sera d'accord. Quand vous avez une maltraitance avérée ou un fort doute, bien sûr qu'il faut écrire au procureur de la République. 10 et 100 enfants décédés de sévices par an, c'est beaucoup, beaucoup plus, et j'en parlerai dans mon topo, donc je ne détaille pas maintenant. Les séquelles dans plus de 50% des cas, oui, parce que ça dépend si vous évaluez les choses immédiatement ou à long terme. Mais quand on reprend les enfants victimes de secouement à l'âge scolaire, on voit que plus de la moitié ont des séquelles neuropsychologiques importantes. Une cellule maltraitance existe dans chaque CHU. Normalement, ça devrait. C'est pas forcément le cas, mais normalement, ça devrait. Financé par le Conseil général, c'est pas obligatoire. C'est le cas à Reims et je les remercie parce que si nous réussissons à avoir notre activité pérenne, c'est grâce à eux. Et la cellule rémoise examine plus de 5 enfants par semaine. Oui, beaucoup plus. Et là aussi, je vais vous en parler.
Non, je te mets moi.
Je ne sais pas si on m'entend assez.
Très bien.
Parfait. Non, c'est le... Attends, je vais le prendre. Non. Problème. Non, parce que c'est pas celui-là. Non, c'est bien avant. Je sais pas pourquoi il met pas la première.
Ah.
Voilà, on va démarrer. Ok. Donc, je remercie Marie-Hélène Bernard de nous avoir proposé de participer à cette journée. Je la remercie surtout d'avoir choisi ce thème-là, parce qu'il est évident que, comme pédiatre, je suis particulièrement sensible au fait qu'elle ait consacré sa journée annuelle au thème de l'enfant mineur victime de sévices et auteur de sévices. Ce que je vais vous présenter est le travail d'une cellule d'accueil que je vais vous présenter, et en insistant sur le fait que tout le monde le sait, mais les enfants, ce ne sont pas des petits hommes en miniature, enfin, en théorie, ça ne l'est pas. Et il faut bien s'en imprégner parce que c'est l'importance d'avoir une cellule d'accueil pédiatrique. Et nous pensons vraiment que les enfants doivent être accueillis dans un cadre pédiatrique par des gens qui ont l'expérience des enfants. Et c'est ce qui s'est mis en place au CHU et je crois que c'est une bonne chose pour les enfants que nous accueillons. Alors les enfants, c'est quelque chose qui varie beaucoup dans le temps. Ça part de ce petit bébé qui est totalement dépendant de ses parents, qui ne sait pas marcher, qui ne parle pas et qui malgré tout peut être victime. Et puis ça va aller jusqu'à cette adolescence boutonneuse que tout le monde a connue à un moment donné. Et entre les deux, il y a toute une évolution qui va se faire et qui va passer par différents stades. Et il va falloir intégrer ces différents stades pour pouvoir interpréter les signes de la maltraitance. Parce que les choses changent avec les âges des enfants. Les signes d'appel ne sont pas les mêmes. Il est évident qu'une énurésie nocturne n'a pas la même signification chez un petit 4 ans et chez un grand de 12 ans, surtout si elle est secondaire. Il est évident que les critères diagnostiques ne vont pas être les mêmes, ne serait-ce que parce que nous n'avons pas l'entretien avec les tout-petits-enfants. Il est sûr que l'interprétation des examens va varier. La flore vaginale d'un enfant de 3 semaines n'est pas celui d'un enfant de 6 mois, n'est pas celui d'un enfant de 10 ans ou d'une adolescente. Les diagnostics différentiels ne sont pas les mêmes. Devant une marge anale éclatée, eh bien, on va chez un grand éventuellement évoquer une maladie Crohn, alors qu'avant 5 ans, ce serait bien étonnant que ça soit une maladie inflammatoire du tube digestif. Et puis la prise en charge également va varier en fonction de l'âge. Donc toute cette évolutivité avec l'âge de l'enfant est importante à prendre en considération lorsqu'on s'occupe d'enfants victimes de sévices. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une cellule pédiatrique. Celle du CHU de Reims existe déjà depuis plus de 25 ans, pratiquement 30 ans. Elle a depuis le départ été constituée par des médecins, des psychologues et des assistantes sociales qui n'y travaillent pas à temps plein parce qu'on estime que sinon on atteint un degré de burn-out qui n'est pas souhaitable. C'est une cellule d'évaluation et de diagnostic, ce n'est pas une cellule de prise en charge, qui reçoit en urgence ou sur rendez-vous programmé à la demande en général de l'un d'entre vous. Alors cette cellule, c'est d'accueil des enfants maltraités, elle gère une extrême variabilité de cas et de situations, sans oublier à chaque fois qu'il s'agit d'un petit être humain tout à fait particulier et tout à fait spécifique. Je vais y revenir plus loin. Elle est médico-psychosociale, je l'ai déjà dit, avec une décision qui est toujours collégiale. Nous sommes assez staliniens dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 100% des gens qui soient d'accord pour faire un signalement au procureur de la République, pour que nous réalisions ce signalement. Et dans cette cellule, bien sûr, chacun respecte le rôle spécifique de chaque spécialité. Et il faut toujours tenir compte des facteurs individuels, parce qu'il y a toujours un moment, malgré l'expérience et malgré les 25 ou 30 années derrière nous,
où il y a des blocages. Qu'on le veuille ou non, même avec la plus grande expérience, il y a des moments où on est fatigué, où une maman vous a énervé, où on n'a pas envie de prendre les choses comme ça, etc. Et si on n'est pas une équipe, si on n'est pas plusieurs à prendre la décision, et si on ne peut pas être à l'écoute des uns et des autres, on risque de faire des bêtises. Alors cette cellule médico-psychosociale, comme je l'ai dit, elle comporte plusieurs intervenants que vous voyez ici. Chacun va faire son bilan de son côté, en général, parfois associé, ça dépend un petit peu des situations et des fonctionnements. Et puis, une fois par semaine, nous avons une réunion de synthèse pluridisciplinaire où nous décidons ce qu'il convient de faire pour cette situation-là. Bien sûr, on peut se réunir plus souvent si nécessité. Alors, en 30 ans, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et quand Marie-Hélène m'avait parlé d'intervenir, elle m'avait dit « Mais ça serait bien que tu dises ce que tu as appris sur ces 30 dernières années. Finalement, quels sont les domaines et les messages que tu souhaiterais faire passer ?» Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de messages que je souhaite faire passer. Le premier, c'est que c'est un problème de santé publique. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte à quel point les chiffres, derrière les chiffres, il y a des enfants. Et il y a des enfants que tout le monde voit. Et donc, c'est un problème de santé publique. Deux, ne serait-ce que par le nombre d'enfants que ça représente, ça existe tous les jours. Et vous voyez les chiffres à l'hôpital américain au fur et à mesure des années. Je ne pense pas qu'en 1986, il n'y avait que 27 enfants maltraités sur la place de Reims. On est maintenant, je vous donnerai les derniers chiffres, mais à beaucoup plus que 500. Il n'y avait pas zéro sévice sexuel sur la place de Reims. Simplement, on ne faisait pas les diagnostics. Et donc, on voit l'évolution des chiffres. Alors, d'une année à l'autre, il y a des variations. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure des années, sur ces 20 premières années, 5500 enfants dont nous avons trouvé la situation suffisamment grave pour les signaler au procureur de la République. Et vous voyez que ça ne s'arrange pas, puisque nos statistiques de 2009 sont les suivantes. Je vous les fais passer rapidement. Pour un total de 565 enfants victimes de sévices, avec une proportion importante de sévices sexuels, comme vous pouvez le constater. Alors, on a vu également l'émergence sur les deux dernières années d'une catégorie qu'on ne mettait jamais dans nos statistiques antérieures, qui sont les enfants victimes d'agressions, les agressions entre mineurs. Monsieur le procureur le soulignait. Nous sommes totalement effarés devant le nombre d'enfants qui arrivent, qui ont été castagnés de façon violente, méchante, répétée, avec des troubles secondaires post-traumatiques, aigus ou chroniques qui s'installent et qui sont extrêmement préjudiciables au développement des enfants. Et nous investissons beaucoup, notamment avec Laurent Paillard, notre psychologue qui s'est spécialisé là-dedans, dans ces agressions entre mineurs pour des jeunes qui sont terrorisés et qui n'osent même plus aller à l'école, qui n'osent plus sortir, qui sont tout à fait pénalisés par cette violence régulière et routinière. Les problèmes de croissance, eux, ils peuvent toucher aussi bien le petit avec les hypotrophes carentielles, dont s'occupe Laurence Duvière tout particulièrement, mais on peut voir aussi des grands qui ont des vrais nanismes psychosociaux, simplement par des sévices répétés. Alors, pour le resituer dans le cadre général de la population, à l'hôpital américain de Reims, nous recevons chaque année environ 20 000 urgences. Nous avons un peu plus que 12 000 consultations programmées, 5 406 hospitalisations et là-dessus plus de 500 enfants maltraités. Donc les étudiants ont plus de chances de rencontrer un enfant maltraité que de voir une méningite foudroyante. Au point qu'on édite même des petits livres maintenant, Jérémy est maltraité, pour que les enfants puissent parler de ces choses-là, parce qu'une des difficultés que l'on a, c'est que les petits-enfants ne savent pas forcément que ce qui leur arrive n'est pas normal, puisqu'ils n'ont pas de référence normale, de fonctionnement normal à leur niveau. La cellule, elle est médico-psychosociale et elle est confrontée à une extrême variabilité des situations. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais c'est vrai que comme c'est diffusé sur Canal U, j'ai fait attention de ne pas montrer trop de photos pénibles, mais c'est quand même une réalité. Alors, les sévices à enfants, cela peut aller d'une simple, si on peut dire, emprise d'un adulte sur des enfants, extrêmement difficile à diagnostiquer, des sévices mineurs psychologiques répétés, et très difficile à diagnostiquer parce que ça ne laisse pas de traces visibles, et parce que l'enfant lui-même n'a pas forcément conscience que cela existe, même des adultes parfois ne se rendent pas compte qu'ils sont sous l'emprise de quelqu'un. Et puis, ça peut être des sévices physiques évident, comme celui-ci, hein, ou ce petit garçon qui venait pour des douleurs abdominales, il suffisait de le déshabiller pour voir qu'il avait été brûlé volontairement par un allume-cigare. Ça peut être des morts in utero. On peut voir des enfants, et les gynécologues doivent se poser des questions lorsqu'on a des morts in utero, de la possibilité d'une violence à l'encontre de la maman ayant provoqué un décollement placentaire et la mort de l'enfant. Ça peut être un enfant dont on a plongé les mains dans un liquide bouillant, ce dont témoignent ces lignes très très précises et qui sont tout à fait inhabituelles pour une brûlure d'enfant. Cette petite fille, elle avait été amenée aux urgences pédiatriques parce qu'elle vomissait, et le diagnostic finalement porté était celui d'une pancréatite aiguë qui était liée à des coups de pied, des coups de poing qui avaient été donnés dans le ventre de l'enfant et qui avaient provoqué des lésions internes. Ça peut aller de l'excision sexuelle au problème de croissance dont je vous ai déjà parlé. Cette petite fille, elle a pris 2 kilos depuis la naissance, zéro surveillance, et en quelques mois de prise en charge, vous voyez qu'elle a multiplié son poids de façon impressionnante. Ça peut être l'enfant secoué avec des hémorragies au fond d'œil qui sont malgré tout extrêmement évocatrices et extrêmement utiles, même si elles ne permettent pas toujours de dater les choses. Et c'est une des difficultés dans nos relations avec la justice, c'est toujours ces problèmes de datation sur les hématomes, sur les hémorragies au fond d'œil, sur l'hématome sous-dural. Et Dieu sait qu'on a du mal à y répondre. Et puis, ça peut être une maladie sexuellement transmissible, comme cette petite fille qui est venue à ma consultation pour une obésité. Et heureusement que je l'ai examinée, il y avait des condylomes, et l'évaluation a montré des sévices particulièrement sévères, multiples, répétés, chroniques, tout à fait abominables. Ça peut aller de la découverte fortuite d'une fracture déjà consolidée chez cette petite fille de 6 mois, amenée par sa maman pour une diarrhée. Et ça aussi, c'est un message important, c'est-à-dire que les gens amènent les enfants. Ils savent que ça ne va pas, ils savent que ça dysfonctionne, ils savent que ce qui se passe à la maison n'est pas normal. Mais éventuellement, cette maman-là, si elle vient et qu'on lui dit « c'est la diarrhée, on va vous donner un peu de soluté de réhydratation » et que personne ne remarque que l'enfant a un bras déformé, que personne ne fait la radio, que personne ne s'interroge et que l'enfant repart comme ça à la maison, eh bien, et la maman et cet enfant-là vont repartir avec leurs problèmes à domicile. Alors bien sûr, les fractures peuvent être beaucoup plus graves. Vous voyez ce petit bébé qui a un crâne comme une coquille d'œuf, hein, avec plusieurs fractures, avec bien sûr en dessous des lésions neurologiques extrêmement sévères, dont l'évolution va pouvoir se faire vers une porencéphalie qui va bien sûr laisser des séquelles extrêmement importantes. Alors oui, il y a une multitude de sévices. Oui, on n'est pas en mesure de penser à tout, et heureusement quelque part, mais vraiment, nous avons vu au fur et à mesure, de par notre expérience, au fur et à mesure des années, s'élargir le champ de nos capacités à diagnostiquer et à pointer des sévices vis-à-vis des enfants auxquels nous n'aurions pas pensé il y a 10 ans, et il est certain que l'expérience nous aide à mieux gérer ces situations à l'heure actuelle. Et il ne faut pas oublier dans le même temps que souvent les enfants sont plurimaltraités. Hein, ça, c'est une série américaine qui vous montre que pratiquement, mais c'est les chiffres qu'on voit dans la littérature, un enfant sur deux est victime de maltraitance multiple. Donc il ne faut pas faire d'évaluation par le petit bout, hein, c'est-à-dire juste dire « ah ben je vais regarder la fracture, je vais expertiser la fracture » et puis ne pas voir que dans le même temps, il est victime éventuellement de sévices sexuels en même temps ou éventuellement de maltraitance psychologique. Donc les évaluations d'enfants doivent toujours être complètes, quel que soit le premier signe d'appel. Même les agressions doivent faire l'objet d'une évaluation complète. On ne peut pas se permettre de dire « ah ben il a juste un petit cran à la tête, elle s'est cognée contre le casier de la cuisine », sans s'apercevoir qu'elle est terrorisée, sans s'apercevoir qu'elle a fugué plusieurs fois alors qu'elle n'a que 10 ans du domicile familial, sans s'apercevoir qu'elle a un hématome sur la face externe de la cuisse, et sans s'apercevoir du coup que son examen gynécologique est tout à fait anormal et que la recherche de sperme s'avérera positive. On n'a pas le droit de passer à côté de ça, et donc le moindre signe évocateur doit conduire à une évaluation complète de l'enfant, quelle que soit la situation. Et il faut surtout pas se mettre dans cette situation qui a trop longtemps prévalu, qui est de surtout ne pas voir, parce que c'est bien compliqué de voir, ne pas écouter, ne pas parler et ne rien dire. Ça, c'est la solution simple, mais c'est pas la solution adaptée. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que quand on a une lésion comme ça, qui va imaginer qu'un adulte va chauffer une tringle à rideau pour imposer ça à son enfant? Personne ne va imaginer ça. Et pourtant ça existe, et pourtant c'est la réalité. Et donc le travail du médecin, c'est de dire cette lésion-là, je n'ai pas d'explication médicale, c'est pas de chercher qui est l'auteur et qui a fait quoi et comment, mais c'est de dire cette lésion-là, je n'ai pas d'explication médicale, à partir de là je fais une évaluation complète, et sur la base de cette évaluation complète, je fais un signalement au procureur de la République. C'est très important parce qu'encore une fois, si on ne se pose pas de questions, on ne fait pas de diagnostic. Hein, et il faudrait que dans tous les centres hospitaliers et partout où on reçoit des enfants qui ont des fractures, on se pose des questions. Ça, c'est une série américaine qui m'a beaucoup frappée et nous essayons de l'intégrer dans notre démarche aux urgences pédiatriques chirurgicales. Ils ont repris a posteriori une série de 861 enfants qui étaient venus aux urgences dans leur hôpital pour une fracture. Donc le motif d'entrée, c'était la fracture. Et puis, a posteriori, en reprenant tous leurs dossiers et en prenant l'avis des services sociaux, etc., ils ont classé leur enfant en accidenté et enfant battu. Vous voyez, 35 enfants battus, 826 accidentés. Et la première remarque qu'il faut voir, c'est l'âge. C'est-à-dire que la grande majorité des accidents arrivent au-delà de 5 ans, c'est logique, on commence à faire du vélo, à monter aux arbres, etc. Et tous les enfants battus se présentant avec fracture, hein, je ne dis pas tous les enfants battus en général, tous les enfants battus avec fracture, se présentant avec fracture, ont moins de 5 ans. C'est plus facile de casser des petits que de casser des grands plus costauds. Première remarque, et si l'on prend uniquement les enfants de moins de 5 ans, vous voyez que moins de 18 mois, vous avez plus de chances d'être un enfant battu quand vous avez une fracture en dessous de 18 mois que d'être un enfant accidenté. Et en général, quand vous avez un accident, la plupart du temps, cet accident est très clair. C'est un accident de la voie publique, c'est le grand frère qui l'a mis sur le vélo et qui a renversé le truc. C'est relativement clair. Donc, en dessous de 18 mois, toutes les fractures doivent se faire poser des questions, et ça dans tous les centres hospitaliers, et je peux vous assurer qu'on est loin du compte. Quand on prend maintenant uniquement les enfants de moins de 5 ans, on va retrouver nos 35 enfants battus, puisqu'ils sont tous moins de 5 ans, et on n'a plus que 116 accidents. Et là, si on prend l'élément lésion associée, eh bien on voit que la plupart des accidents n'ont aucune lésion associée. Pourquoi ? Parce que vous tombez de la balançoire, vous vous cassez le coude, point terminé, vous n'allez pas avoir et le coude cassé et un hématome à l'autre endroit. Tandis que la grande majorité des enfants battus, eux, ils ont une autre lésion ailleurs. Donc quand on a moins de 5 ans, qu'on a une fracture, et surtout si on a moins de 18 mois, et surtout si on a une lésion associée, s'il vous plaît, ne laissez pas repartir cet enfant-là. Je ne dis pas que c'est obligatoirement un enfant battu, mais au moins il faut se poser la question. Alors ça peut être une fragilité osseuse constitutionnelle, ça peut être tout un tas d'autres diagnostics, ça c'est le travail du médecin, de le faire préalablement à tout signalement, de faire attention à ce qu'il fait. Mais il faut en tout cas que la question soit posée dans la tête du médecin. Et au pire, ça peut arriver jusqu'aux enfants décédés. Et là, je vais m'attarder un tout petit peu sur les décès d'enfants, si j'ai le temps. Je suis à combien, Marie-Hélène, là ? Faut que je rattrape du temps, c'est ça ? Parce que la fréquence de ces enfants décédés est certainement sous-estimée. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, et malheureusement, ils sont toujours en avance sur nous, mais on finit toujours par les rattraper, c'est la première cause de décès chez l'enfant de moins de 4 ans. Et ça laisse 141 000 handicapés par an. En France, on estime à 400 par an, et c'est sûrement sous-estimé. Pourquoi ? Parce que c'est sous-estimé par les médecins. On n'a pas envie, quand un enfant arrive mort, de penser à ce diagnostic-là. C'est sous-estimé, même par les anatomopathologistes, et Paul pourra confirmer, par exemple, les diagnostics d'asphyxie volontaire sont extrêmement difficiles à diagnostiquer à l'anatomopathologie. Et donc, oui, c'est sous-diagnostiqué, et c'est quand même un problème majeur. D'autant plus que ces enfants-là, quand il meurt, on peut dire qu'on a loupé le coche, hein. C'est que le système n'a pas fonctionné. Eh bien, quand on prend des études, on voit qu'il meurt de toutes sortes de maltraitances, diverses et variées. On peut mourir sous les coups, on peut mourir de sévices sexuels par lésions internes ou par asphyxie parce que l'auteur a essayé de vous empêcher de crier. Mais on meurt surtout de récidive. C'est-à-dire que quand on reprend tous les dossiers de ces enfants qui sont décédés, on retrouve la possibilité qu'on aurait pu avoir antérieurement de faire un diagnostic et de protéger l'enfant. Ça, c'est une série de 21 cas d'enfants décédés avant 17 ans de maltraitance. Et donc, il y a eu 21 autopsies. Et vous voyez que les lésions sont multiples et d'âges différents. Et donc, on aurait pu auparavant, peut-être, faire le diagnostic. C'est pareil dans cette série de 44 cas, dont 37 de moins de 4 ans, 30% de signalements antérieurs aux services sociaux, 19% de signes cliniques constatés par un médecin et qui n'ont pas conduit à faire un signalement au procureur alors qu'ils auraient dû conduire à ce signalement. Donc beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour éviter la récidive et la mortalité. Dans d'autres séries, je les passe rapidement, mais pareil, 61% dans cette série de 2007 qui portait sur 7430 enfants auraient pu être signalés avant. Et dans une autre série, il y avait eu 30 à 50% de signalements antérieurs, soit concernant la fratrie, et on ne s'occupe pas assez des fratries quand il y a un enfant maltraité, ça, il n'y a pas forcément un vilain canard dans la famille, il peut y en avoir plusieurs. C'est beaucoup plus grave lorsque ce sont des maltraitances physiques, le risque de mortalité est plus important. Le délai de récidive est très bref, vous voyez qu'il est de 9 mois, c'est-à-dire qu'entre les premiers faits et la mort, il va s'écouler peu de temps. Et lorsque le rapport est circonstancié, ce délai s'abaisse même à 2 mois. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Il ne faut pas se dire, je vais voir, je vais attendre, on va refaire l'entretien, on va discuter, etc. 2 mois après les premiers faits, qui auraient pu faire l'objet d'un signalement circonstancié, l'enfant va pouvoir mourir, alors que quand ça n'est pas circonstancié, le délai s'allonge à 35 mois. Donc l'absence de diagnostic est tout à fait dramatique. Retard à la prise en charge, poursuite des sévices, majoration des troubles psychologiques, le risque pour les autres mineurs et bien sûr le sentiment de toute puissance pour l'auteur des faits. Et on voit arriver, nous voyons même dans le service des gens, des adultes qui viennent, qui sont complètement détruits et qui viennent nous demander leur dossier pédiatrique. Et je peux vous assurer que parfois on a honte quand on relit les dossiers pédiatriques du manque de courage des adultes qui ont hésité, qui ont pensé que, qui ont fait confiance au papa, qui était malheureusement l'auteur, etc., etc. Et donc on ne doit pas arriver dans ces situations-là. Oui, il faut se mouiller, oui, il faut dire les choses et oui, il faut signaler au procureur. On n'est pas obligé de dire qu'on est sûr à 100%, mais il faut quand même dire qu'on a un doute et qu'on pense que cet enfant-là est éventuellement victime de sévices. D'autant plus que il y a quand même un risque non négligeable de répétition. Ça, c'est une famille que je vous présente, mais c'est terrible parce que les victimes et les auteurs se perpétuent. Le grand-père, je ne sais pas s'il a été victime. Ce dont je suis sûre, c'est que les 5 filles qu'il a eues ont toutes été victimes de sévices sexuels de sa part. Et ces femmes ont eu des enfants qu'elles ont eu du mal à protéger. Et en prenant des concubins, des maris, des pères qui étaient à l'image de leur propre père. Et sur les 18 petits-enfants, vous voyez qu'il y en a eu 13 qui ont été placés pour des sévices divers, et je plains les 5 enfants qui n'ont pas été évalués dans cette famille. Et les auteurs, c'était tout le monde, c'était le père, le beau-père, 2 des filles victimes elles-mêmes, une belle-mère. La répétition n'est pas obligatoire, mais elle existe, et donc il faut s'en saisir là aussi lorsqu'on aborde ces familles. 10% des auteurs de sévices sexuels sont des femmes, aucun a priori d'aucune sorte dans le domaine de la maltraitance. On voit de tout dans tous les sens. Alors les conséquences en trop, elles sont tout aussi dramatiques, c'est évident, et il faut les éviter de la même façon qu'il faut éviter les erreurs en pas assez. Il faut avoir la même vigilance, il faut être extrêmement précis sur le diagnostic positif, il faut être extrêmement précis sur le diagnostic différentiel, il faut faire tous les examens nécessaires avant, par exemple, de signaler un enfant secoué. Eh bien, il faut avoir une angio-IRM, être sûr qu'il n'y a pas de malformation, il faut avoir une chromatographie des acides organiques urinaires pour éliminer une maladie métabolique, il faut faire les examens, il faut faire ce qu'il faut, mais une fois qu'on a posé son diagnostic, il faut faire le nécessaire. C'est sûr que si on signale à tort, il va y avoir un retentissement parental que je n'ai pas besoin de vous décrire, j'ai mis lourdeur entre guillemets, bien sûr. Il va y avoir un retard à la prise en charge médicale de la vraie pathologie de l'enfant, et puis une rupture des relations, ça c'est pas forcément le plus grave, mais c'est toujours ennuyeux. Et par exemple, il ne faut pas se précipiter à diagnostiquer des sévices sexuels sur cet anus d'un petit nourrisson, parce qu'en fait, le vrai diagnostic, c'était celui d'une tumeur anale. Donc il faut être très très vigilant à ne pas faire d'erreur, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors dans toutes ces situations, garder la tête froide, c'est important, parce que les médecins ne sont pas suffisamment formés à gérer ces situations-là et perdent souvent un petit peu les pédales et se demandent « Oh là, qu'est-ce que je vais faire ?» etc. Non, il faut garder la tête froide, même si c'est difficile, et il faut garder sa démarche diagnostique habituelle, l'interrogatoire, les antécédents, l'examen clinique, des examens paracliniques. Alors c'est vrai que tout est difficile. À un moment donné, au cours de ces 30 années passées auprès de ces enfants-là, j'ai pensé que voilà, c'était devenu plus facile, j'y arrivais mieux, je cadrais mieux, etc. Et maintenant, plus ça va, plus je me dis, mon Dieu, que c'est difficile. Tout est difficile, l'entretien est difficile, l'examen clinique est difficile, l'interprétation des examens paracliniques est difficile. Et il faut donc faire très très attention à ce que l'ensemble soit cohérent. Et puis, il faut considérer l'environnement de l'enfant. Parce que l'enfance maltraitée, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, vous avez tout le dysfonctionnement familial parce que l'auteur des faits est quand même malheureusement très souvent en intrafamilial. Tout ce dysfonctionnement familial, il va falloir l'intégrer et toujours pareil, ne pas être lâche, regarder les choses en face et écouter. Écouter, c'est pas si facile que ça, puisque il faut être formé, il faut du temps, il faut mettre de côté ce qu'on croit savoir et ce qu'on croit pouvoir et les relations habituelles que l'on a. Il faut avoir la capacité d'entendre et il faut éviter nos propres interférences. Donc tout ça, c'est très difficile, ça s'acquiert au fur et à mesure. Et même après de nombreuses années, ça n'est pas facile. Je vais passer rapidement sur les auteurs, simplement pour dire que c'est plus souvent des hommes que des femmes. Et les femmes, c'est plus souvent passif et les hommes plus souvent actifs. C'est le plus souvent au domicile, puisque bien sûr personne ne peut voir ce qui s'y passe. Et la filiation compte, puisque c'est d'autant plus grave qu'il y a un adulte non directement impliqué dans l'arrivée de l'enfant au domicile. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on reçoit ces enfants-là, très souvent ils sont accompagnés de l'auteur des faits, quand ils arrivent à l'hôpital américain. Et la relation, elle doit rester extrêmement professionnelle. Professionnel, ça veut dire pas d'interférence avec ses réactions personnelles, ne pas fuir, ne pas être agressif, une relation ouverte et honnête, même si on leur dit qu'on ne va pas tout leur dire, puisqu'on va faire une procédure médico-légale, et avec une certaine empathie. Ne pas juger, ne pas accuser, ne pas rechercher l'auteur, ça n'est pas notre rôle de médecin, ne pas revitaliser des parents déjà fragilisés, et saisir plutôt le diagnostic comme la possibilité d'une chance qu'on puisse repartir d'une autre façon dans cette famille-là, en laissant une large place à l'expression des réactions de la famille. C'est important parce que si on veut que cette petite fille ne dessine plus son papa auteur de victime de sévices sexuels, vous voyez, elle le dessinait les dents de papa, la langue, le zizi, c'est une drôle de façon quand même de présenter son papa. Si on veut qu'elle retrouve un dessin d'enfant plus classique d'une famille, eh bien, pour lui redonner le sourire, il va falloir mettre en place tout un tas de choses autour de cette famille-là. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui existent. C'est vrai. Ces enfants-là bénéficient d'un certain nombre d'aides, mais très sincèrement, je crois qu'il faut qu'on puisse élargir la palette, qu'on puisse innover et qu'on puisse améliorer très nettement les choses. Alors, il faut innover parce qu'il faut, comme en Belgique, éventuellement avoir des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel ou à temps plein, où on accueille l'ensemble de la famille, où on travaille avec l'ensemble de la famille et qu'on ne travaille pas qu'en milieu fermé avec un auteur incarcéré qui a plus ou moins une prise en charge psychiatrique d'un côté, des enfants de l'autre côté et puis une mère qui est mise au pilori par d'autres, etc. Il faut que, comme au Canada, on puisse éloigner l'auteur plutôt que de placer un enfant. La réaction pour protéger les enfants, c'est de les placer. Double punition, non seulement il est victime, mais en plus on le place en institution ou en famille d'accueil. Il faut qu'on ait d'autres possibilités, même si encore une fois il y a beaucoup de choses qui existent, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à évoluer dans la prise en charge de ces familles. Il faut qu'on puisse briser les barrières géographiques. Ça n'est pas normal qu'un enfant soit signalé à Reims et aille mourir à Montpellier. Ça n'est pas normal qu'un enfant qui est à Amiens, quand il bascule dans la région de Reims, n'ait plus de suivi éducatif. Il faut absolument que les barrières géographiques tombent. Il faut aussi que les barrières institutionnelles tombent. Chacun reste un petit peu dans sa tour d'ivoire avec son langage, avec sa façon de faire, etc. Il faut que le secret professionnel puisse être partagé dans l'intérêt de l'enfant, que chacun apprenne aussi la façon dont l'autre parle. Hein, on a chacun notre jargon, notre façon de dire, etc. Mais il faut qu'on arrive à briser un petit peu, même si chacun reste parfaitement à sa place, mais il faut qu'on arrive à briser ces barrières institutionnelles sans relation de pouvoir, comme cela peut parfois être le cas. Alors en conclusion, et j'espère que j'aurai tenu le timing, ça reste compliqué. De l'eau a coulé sous les ponts, mais bon Dieu que ça reste compliqué. Les réponses restent à inventer, je crois. Et il y a encore beaucoup de travail pour que on retrouve un fonctionnement normal dans ces familles-là et qu'on n'ait pas des enfants qui puissent nous pointer un doigt accusateur par rapport au silence qu'on aurait pu avoir quant à leurs sévices. Je vous remercie.
Merci beaucoup Béatrice. Des questions, des remarques, très brièvement. Moi j'avais envie de faire une remarque et une question. Une remarque concernant un cas que j'avais vécu et en t'entendant, ça me l'a rappelé. C'est sûr que j'avais fait l'autopsie il y a quelques années d'une petite fille de 9 ans qui était morte étouffée. Et en assistant au procès d'assises, on voyait que tout était programmé, y compris la mort de la petite, mais il y avait eu la lenteur des services sociaux, la lenteur, et un placement était prévu. Et puis elle est morte. Et la conclusion que je m'étais faite, c'est aller directement au procureur de la République, si vous êtes sûr, parce qu'autrement on arrive à ces catastrophes. Alors la question que je voulais te poser, c'est vrai que le signalement c'est essentiel, mais un signalement pour quel bénéfice pour l'enfant ? Parce que éviter des morts, c'est clair, mais est-ce que vous avez des statistiques qui vont permettre de dire oui, on a permis de redresser la barre et ça a été un enfant victime de sévices, mais il a repris une vie parfaite, une vie normale, très bien. Donc c'est ma question, Béatrice.
Là aussi, malheureusement, je vais être obligée de dire qu'il n'y a pas de bonne solution dans ces situations-là. On voudrait espérer que, voilà, on a fait le diagnostic et tout va changer et cet enfant-là, il va retrouver une vie normale. Non, c'est pas comme ça. Quand on fait un signalement au procureur de la République, on a bien la notion qu'on met une bombe dans la famille. Il est évident que, moi je me rappelle très bien une petite fille, c'était terrible, il y avait 3 petites filles dans la famille et chaque fois que la maman partait aux courses, elle emmenait 2 des 3. Et puis, il fallait qu'il y en ait un qui reste pour servir le père et être le souffre-douleur du papa pendant ce temps-là qui exerçait ses sévices sexuels. Et donc, c'était un déchirement pour ses enfants pour savoir lequel resterait, parce qu'ils n'avaient pas envie de rester. Et en même temps, ils savaient ce qui allait se passer pour l'autre et ils ne voulaient pas laisser l'autre à la maison. On a fait un signalement au procureur de la République. Et puis, le papa a été incarcéré et la maman s'est suicidée. Et ces 3 enfants se sont retrouvés orphelins de mère et avec un père incarcéré pour de nombreuses années. Je n'ai sans doute pas fait du bien, mais je ne pense pas lui avoir fait du mal non plus, parce que je pense que la situation antérieure n'était pas une bonne situation. Et donc, on est un peu perplexe, parce que c'est vrai que des fois, on se dit on n'a peut-être pas bien fait, mais à la longue, je crois quand même que si on ne signale pas, c'est pire. Et j'ai vu trop d'adultes revenir à l'hôpital américain, me demander leur dossier, qui sont complètement détruits, qui ne peuvent pas s'en remettre parce qu'il n'y a pas eu de procédure judiciaire, parce qu'il n'y a pas eu de prise en compte de la maltraitance. Donc, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas un retour à la normale, ça je ne crois pas. Mais je pense que c'est pire si on ne signale pas, c'est pire. Mais, ceci dit, il faut qu'on progresse, je veux dire, c'est certain que la prise en charge aujourd'hui de ces enfants-là et de ces familles-là n'est pas satisfaisante.
Oui, je voudrais faire une remarque et puis peut-être apporter un complément d'information par rapport à cette cellule maltraitance. Donc, bon, d'une part, évidemment, Béatrice, te remercie infiniment pour ta communication qui est l'expression de ce travail extraordinaire que tu coordonnes dans la cellule maltraitance du CHU avec tes collaboratrices et collaborateurs auxquels on peut, je crois, rendre également hommage. Moi je suis à Reims depuis que 2 ans et demi, donc avec une activité principalement thanatologique. Je voudrais dire 2 mots justement sur cet aspect. Je crois qu'on peut, et je profite de la présence des magistrats qui nous honorent de leur présence et de leur confiance, pour apporter une précision concernant notre approche qui est, de mon point de vue, et du tien, comme parce que tu le partages bien sûr, unique en France, et les résultats du QCM que Marie-Hélène a montré montrent que effectivement c'est pas connu. Hein. On dit la cellule maltraitance existe dans chaque CHU 11%. Effectivement, on est étonné qu'on se rende compte qu'effectivement il n'y a pas de cellule maltraitance. Alors comment on fonctionne, je dirais, sur le plan à la fois clinique et thanatologique, et je veux dire 2 mots sur la thanatologie. On a en Champagne-Ardenne, et je m'adresse aussi et surtout aussi aux cliniciens, spécialistes du SAMU, pompiers, gendarmes, policiers, donc officiers de police judiciaire. On a mis en place un système qui, de notre point de vue, est unique en France et, à mon avis, exemplaire. C'est-à-dire qu'on considère qu'aucun enfant, après on peut définir l'âge, ça n'a aucune espèce d'importance, ou nourrisson, ne doit être, doit décéder ou avoir un décès sans autopsie. Les autopsies doivent être systématiques. Le système que l'on a mis en place, c'est que on va proposer des autopsies aux parents dans le cadre du protocole HAS pour les morts subites inexpliquées du nourrisson. Il appartient effectivement aux pompiers, aux SAMU, etc., d'expliquer aux parents l'importance de ces autopsies pour détecter d'éventuelles maladies génétiques, pour détecter d'éventuelles pathologies qui auraient une importance dans le cadre de grossesses ultérieures, avec cette arrière-pensée, parfois de la maltraitance. On considère que si les parents refusent ces autopsies scientifiques dans le cadre de ces investigations pour mort subite inexpliquée du nourrisson, eh bien, il est de notre devoir de mettre un obstacle médico-légal afin que des autopsies systématiques soient faites à ce moment-là dans un cadre judiciaire. Les autopsies sont de toute façon faites au CHU par collègues et moi, avec systématiquement en dualité avec un pédiatre de la cellule maltraitance, de telle sorte que s'il s'agit d'une autopsie médico-scientifique et que l'on détecte des lésions suspectes ou des lésions de violence, eh bien on pourra signaler ces lésions au procureur. A l'inverse, si l'autopsie est faite dans un cadre médico-judiciaire pour des raisons diverses, eh bien l'enfant pourra bénéficier, entre guillemets, de toutes les investigations que l'hôpital met en œuvre pour approfondir la cause de décès. Investigations virologiques à la recherche de virus, de bactéries, la génétique, les maladies métaboliques, l'anatomie pathologique, des milliers, des dizaines de milliers d'euros sont investis par l'hôpital, que nous remercions, pour approfondir les causes de décès. Mais à chaque fois, eh bien, ces autopsies sont faites avec une vigilance extrême par le médecin qui fait l'autopsie et que j'ai l'honneur de coordonner depuis que je suis là. Donc je crois que cette approche est exemplaire en France, hein, de telle sorte que aucun enfant, aucun nourrisson ne doit décéder sans avoir des investigations médico-scientifiques avec un œil, avec une arrière-pensée médico-légale. Donc je crois que ça, c'est une approche dont on peut être fier. Et je le dis donc aux OPJ, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, aux SAMU, aux pompiers, qu'il faut qu'ils aient cette approche. Autopsie médico-scientifique ou autopsie médico-légale.
Je ne peux que souscrire, et ça fait partie d'arrêter les barrières institutionnelles. Hein. C'est-à-dire de dire on est tout dans le médico-légal, ou on est tout dans le médico-scientifique. Ces parents-là, il faut qu'ils soient accueillis de toute façon. Il faut qu'il y ait un abord médico-psychosocial. Il faut qu'on fasse un petit peu le point sur la situation. Et il faut qu'à n'importe quel moment de la prise en charge de ces enfants décédés, on puisse basculer dans le médico-légal si on pense que c'est nécessaire. Mais le basculement immédiat, par exemple, par les pompiers, je m'excuse, mais c'est quand même de temps en temps le cas, qui craquent, mettent un obstacle médico-légal parce qu'il y a juste un enfant qui est décédé, entre guillemets, alors que éventuellement les parents n'ont rien fait, je crois qu'ils ne se rendent pas toujours compte de la cascade d'événements qui se passe derrière, avec un corps qui n'est pas rendu aux parents, que les parents ne peuvent même pas voir à la morgue parce qu'il y a du médico-légal, donc on ne peut même plus aller voir le bébé. Et avec des parents qu'on surbrutalise alors qu'éventuellement ils n'ont rien fait. Et donc je crois que cette approche qui permet d'être entre deux eaux, alors que d'habitude c'est ou tout l'un ou tout l'autre, ou on est dans le médico-scientifique ou on est dans le médico-légal, je crois que c'est un des progrès effectivement qu'on a fait au CHU de Reims et qu'on souhaite poursuivre pour qu'il n'y ait pas des barrières institutionnelles qui finalement sont très préjudiciables aux familles.
Voilà, si vous permettez de rajouter deux observations très rapides. D'ailleurs, dans le précédent département, on avait un protocole avec l'hôpital sud-francilien qui faisait que toute mort subite du nourrisson donnait lieu à une autopsie médico-légale sur réquisition du parquet, ce qui permettait effectivement de régler cette problématique. En deux observations très rapides, je salue la qualité de l'intervention qui vient d'être faite Et je souhaite, parce que je pense que nous avons surtout un public ici d'hospitalier, que les médecins de ville aussi puissent en bénéficier. Parce que j'ai le souvenir quand même, au cours de ces dernières années, encore une fois à 35 ans, de quelques retards de signalement qui ont donné lieu à des suites dramatiques, et dont quelques-unes pas mal venaient d'ailleurs de louper à ce stade-là. Le médecin de ville avait été consulté pour de multiples raisons, n'avait pas signalé. L'avantage que vous avez en milieu hospitalier, c'est que vous êtes en pluridisciplinaire et que vous bénéficiez de regards croisés. Et ça, c'est une grande force. Et vous avez en ville des médecins qui se trouvent bien seuls. Et chaque fois qu'on leur posait la question, ils nous répondaient la même chose. Je suis seul, je ne suis pas en mesure de, etc., etc. On comprend tout à fait ces raisons. Mais ce qui serait bon, si j'ai un vœu à émettre, ce sera celui-ci aujourd'hui, que vos collègues de la ville puissent bénéficier effectivement de ce type d'enseignement, de ce type d'exposé. Deuxième chose, vous avez, docteur, insisté sur la difficulté du diagnostic. C'est une vraie difficulté, pas seulement pour les violences psychologiques, parce qu'elles ne laissent pas de traces, mais parfois aussi pour les violences physiques. Et là, c'est un souvenir tout à fait récent, il remonte à 3 ans. Et c'est un médecin de ville, justement, qui nous l'avait signalé, cette petite fille qui avait présenté à la radio de multiples fractures, déjà consolidées pour certaines, les parents l'avaient consultée pour une fracture récente. On a ouvert une information pour maltraitance, bien entendu. Les parents protestaient. Et il a fallu des investigations médico-légales que vous êtes en mesure de faire pour s'apercevoir que cette petite fille, bon, je ne sais pas le terme technique, mais était atteinte de la maladie des os de verre. Et qu'effectivement, les fractures qu'elle avait eues, c'est-à-dire que c'est naturel ou pathologique en tout cas, mais ça n'avait rien à voir avec la maltraitance. En tout cas, les investigations médico-légales ont permis de lever cette hypothèse.
C'est pour ça que l'activité médico-légale, l'activité autopsique dans les CHU est essentielle grâce à la multidisciplinarité.